Bonsoir à chacun.
Je vous invite à ouvrir la Bible dès à présent dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset qui sera la base de notre méditation ce soir. 2 Corinthiens, chapitre 13, et le verset 13. 2 Corinthiens 13, 13. Peut-être que vous le connaissez déjà, mais c'est bien de le relire malgré tout. Il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et il est dit aussi Amen, c'est-à-dire je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette prière? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit ou la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je réfléchissais que des fois, en ces temps de fin d'année, c'est des moments où on a envie de prendre des résolutions, mais vous savez qu'il y a des moments dans la vie où, par exemple, on échappe à la mort, et quand on passe à côté de la mort, on se ressente sur l'essentiel. Il y a des personnes qui vivent une situation ou quelque chose de particulier qui les fait échapper à la mort, et quand elles en ressortent de cette situation, elles réfléchissent un petit peu sur leur vie. Vous avez déjà entendu parler des personnes comme ça, qui ont vécu. Je lisais un témoignage justement d'une femme d'affaires aux États-Unis. C'est une femme d'affaires qui a monté son journal, qui a fait candidature pour être gouverneur de Californie, qui a fait toutes sortes de choses, elle écrit des livres, elle faisait des conférences, elle allait aux émissions de télévision. Elle travaillait 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Pour que ses affaires marchent, pour trouver des investisseurs. Et elle mettait tout son cœur à cela. Et du point de vue humain, elle a réussi, c'est-à-dire qu'elle avait le pouvoir et l'argent. Mais un jour, elle était dans son bureau, c'était tard le soir, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait un burn-out, et ça s'est traduit de manière physique, c'est-à-dire qu'elle était tellement épuisée, à bout, qu'elle est tombée littéralement sur son bureau, elle s'est ouvert le crâne, elle a vu des fractures à la pommette, l'arcade sourcilière explosée, etc. Et ils ont amené aux urgences, etc. Et au moment donné où elle a ressorti tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a fait un bilan un peu de sa vie. Elle a fait le bilan de sa vie et elle s'est aperçue que le pouvoir et l'argent, c'était bien, mais c'était pas tout. Elle s'est aperçue de certaines choses tout simples, je les ai marquées. Elle a décidé de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'était pour elle bien dormir, faire une chose à la fois, s'émerveiller des petites choses de la vie, être généreuse et avoir du bon sens dans ce qu'on fait. Je me suis dit, c'est dommage quand même que cette personne... Elle est dû se faire mal à la tête pour que ces choses puissent lui arriver dans la tête. Et qu'au lieu d'avoir ce privilège que nous avons, nous, de simplement ouvrir la parole et de lire ces petits conseils. C'est tellement simple ce qui est dit là. La grâce du Seigneur, du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit, que cela soit avec vous. Et je crois que ces quelques paroles... C'est ce qui nous permet à nous de revenir à l'essentiel. Ça serait dommage d'attendre un choc, que Dieu lance un choc dans notre vie au travers d'une épreuve, au travers d'une situation difficile, pour que nous puissions revenir simplement à l'essentiel. Je crois que tout cela renferme ce que Dieu veut pour nous dans notre vie chrétienne, si nous voulons avoir la réussite au point de vue spirituel. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et il y aurait tellement de choses à dire, mais c'est un des versets qui présente en particulier la Sainte Trinité. Vous savez, dans la parole, il n'y a pas le mot Trinité qui est écrit quelque part. Parce que la Trinité, ce n'est pas un concept théologique compliqué qu'il faut essayer de définir, c'est quelque chose qui se vit. Et dans ce passage, on voit l'apôtre Paul, il finit sa dernière lettre aux Corinthiens avec ce passage, « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, que cela soit avec vous. » Parce que c'est l'essentiel, parce que c'est le principal, c'est ce qu'il vaut mieux posséder ici-bas, plus que tout le reste. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, on va cheminer ensemble pour que vous soyez persuadés. Et en tout cas, commençons avec la grâce de Jésus. Regardez dans les Proverbes. Chapitre 22, il est question d'une certaine grâce qui est comparée à quelque chose. Proverbe chapitre 22, et le verset premier, il est dit « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or ». Et c'est sûr que quand on est en repas avec quelqu'un qui démontre de la faveur, qui est bon, qui a, on sent qu'il y a une bonté dans son cœur, un amour, c'est plus intéressant que d'être avec quelqu'un qui est très riche, mais qui est méchant. À table, on est d'accord, parce qu'on aime bien échanger quand on est à table. On aime bien discuter. Et que la personne soit riche ou pas, c'est ce qui va, sa réputation, c'est ce qui va se dégager d'elle. Et là, on est d'accord de dire que la grâce dont il est question, c'est pas la grâce de Jésus. C'est la grâce, l'opinion que les gens peuvent avoir de nous, la bonne réputation. Mais la grâce de Jésus, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle est beaucoup plus importante que cette grâce-là. Jésus, il a accepté même de laisser tomber sa réputation. Il s'est fait mettre au rang des malfaiteurs. Lui qui avait une réputation de quelqu'un qui guérissait, qui faisait du bien, à un moment donné, tout le monde l'a pris pour un malfaiteur. Il s'est laissé crucifier, il s'est laissé être un objet de malédiction, mais il a fait à notre place. Pour que nous puissions, nous, échapper à la mort qui nous attendait, à la condamnation de Dieu. Et cela, ça s'est passé sur la croix. On connaît cette histoire. Combien la grâce de Dieu, la grâce que Jésus a faite, elle est incroyable. Comment est-ce que ce soir nous considérons la grâce de Dieu? Est-ce que nous avons tellement l'habitude d'entendre ce mot, d'entendre ce concept qu'on se dit, bon, c'est bien, mais ça ne me fait rien de plus, rien de moins? Ou est-ce que nous avons ce cœur qui dit, Seigneur, je veux encore ce soir prêter attention. Je veux, Seigneur, fixer mes regards sur ta grâce. Là, il est dit que la grâce, elle vaut mieux que de l'or. Est-ce que pour vous, la grâce que Jésus vous a faite de vous sauver, ça vaut mieux que de l'or, que toutes les richesses de la terre? On est d'accord? C'est-à-dire que ça vaut la peine que toute notre vie, on vive rien que pour la grâce. Toute notre vie, on vit, on a un travail, on gagne de l'argent, pour pouvoir entretenir notre famille, etc. Mais pour pouvoir avoir de l'or, si on peut dire ça comme ça. Mais la grâce de Dieu vaut plus que l'or. La grâce de Jésus, qui a été manifestée en la personne de Jésus, elle vaut plus que l'or. Et nous avons besoin de nous attacher, de considérer toute cette importance. Ce que l'or et l'argent ne pouvaient acheter, la grâce de Jésus-Christ nous l'a acquise. Ce que, il est dit dans 1 Pierre, il nous a racheté avec de l'or ou de l'argent, non avec des choses périssables, mais avec son propre sang. Comment est-ce que nous regardons la grâce de Dieu? Il y a certains qui regardent la grâce de Dieu de la mauvaise manière en disant, puisque Dieu fait grâce, puisque Dieu pardonne toujours, je vais pécher davantage, je suis sûr que je vais être pardonné. Laissez-moi vous dire, c'est pas comme ça que ça marche, la grâce de Dieu. Et que si on a cette conception de la grâce de Dieu, on passe à côté de la profondeur, de ce plan parfait, de ce cadeau merveilleux que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ. La grâce de Dieu vaut plus que tous les trésors du monde. S'il m'arrivait même de tout perdre, même s'il ne me restait rien dans ce monde que la grâce de Dieu, je pourrais être encore heureux. Vous le croyez ça? Quand on entend les témoignages de nos frères et sœurs, justement qui sont dans la persécution, qui sont peut-être dans les prisons les pires, ici les prisons elles sont 4 étoiles, mais là-bas c'est les pires prisons. Je me souviens quand on est en Afrique d'avoir entendu parler des prisons qui étaient là-bas, c'était abominable les conditions dans lesquelles ils se trouvaient. Mais il y a des hommes qui sont dans ces conditions-là et qui ont la grâce de Dieu, qui ont reçu cette grâce et qui sont heureux. Il y a même quelqu'un qui disait, j'avais beau avoir l'impression d'être en enfer du point de vue humain, j'étais comme sur le ciel sur la terre dans ma vie, dans mon cœur, tellement c'était incroyable la présence de Dieu. La grâce vaut mieux que l'or. Dans Romains chapitre 5 verset 17, il est dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Si vous lisez le passage, vous voyez que c'est dans Romains que ça se passe, Romains chapitre 5, vous voyez qu'il y a une opposition entre l'offense d'Adam et la grâce qui est venue par Jésus. Et ça nous parle aussi de cette vie que nous avons connue, la vie où on était esclaves du péché d'un côté, et la vie où nous sommes dans la grâce de Dieu de l'autre côté. Il y a une opposition entre les deux, par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts. Mais par la grâce de Jésus, nous avons l'abondance, nous avons la bénédiction. Il suffit d'une offense. Il nous suffit de faire un péché pour être condamné de la part de Dieu, condamné de la part de la loi. Mais la grâce justifie toutes les offenses. C'est ce qui est écrit, je résume à peu près, hein, ce qui est écrit juste avant. Par une seule offense, la mort a régné sur tous, mais par la grâce, je peux régner dans la vie. Je peux ne plus être esclave du péché, mais je peux régner dans la vie. Voilà ce que nous appelle à vivre la grâce que Jésus veut nous donner ce soir, ou que nous avons déjà reçue, mais qu'il veut nous voir fructifier. Qui règne ce soir? Posons-nous la question. Qui règne dans ma vie? Est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est l'offense? Comme ces personnes qui disent, ben moi je peux pécher puisque Dieu va pardonner. Si vous avez ce discours, c'est le péché qui règne dans votre vie. Par contre, si vous savez que Dieu fait grâce, mais parce qu'il fait grâce, vous voulez renoncer à l'impiété, renoncer au convoitises de ce monde, renoncer à tout ce que toutes les attraits, les séductions de ce monde, alors vous avez compris le bon chemin, la vie qui est donnée par la grâce de Dieu. Paul, qui s'adresse aux Corinthiens dans ce passage, dit « Je voudrais que la grâce de Dieu, que la grâce de Jésus soit avec vous ». Mais n'oublions pas que quelques passages avant, quelques chapitres avant, c'est lui qui a reçu cette parole de la part de Dieu. Alors qu'il était là, il priait pour qu'il soit délivré de son épreuve, Dieu lui dit « Ma grâce te suffit ». Combien est-ce que vaut la grâce pour nous? Quelle valeur on lui attribue? Est-ce qu'on peut dire « Oui, la grâce de Dieu me suffit » par rapport à tout ce que je peux vivre, par rapport à toute la difficulté des choses que je peux rencontrer? La grâce de Dieu me suffit. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement un concept qui vient de Jésus qui nous donne sa grâce, mais c'est quelque chose que nous devons faire fructifier. Dans 1 Corinthiens, on peut le lire ensemble, chapitre 15. Donc c'est toujours au même Corinthiens, mais c'était avant qu'il avait dit ça, Paul. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, il leur donne cet exemple de sa propre vie. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Comment on fait fructifier la grâce de Dieu dans notre vie? Est-ce que c'est une grâce qui est devenue vaine parce qu'elle ne sert à rien finalement? Elle sert simplement à notre salut, mais je crois et j'aimerais vous dire que si nous marchons dans une grâce vaine, c'est-à-dire que nous recevons la grâce de Dieu mais nous ne la redonnons pas en retour pour être au service de Dieu, eh bien, nous sommes en danger parce qu'à un moment donné, notre foi va faiblir. Ce n'est pas le plan de Dieu pour notre vie. Nous sommes en danger de passer de l'autre côté, de perdre même notre salut. Mais Paul disait, je travaille. Et non pas moi toutefois, mais c'est la grâce de Dieu qui travaille en moi. Je laisse la grâce de Dieu travailler en moi. Il y a une étude qui a été faite par la Harvard Business School, alors excusez mon anglais, hein, démontre cette étude que donner à une œuvre de charité, ça a le même impact sur notre bien-être que le fait de doubler le salaire. T'imagines? C'est une étude sérieuse qui a été faite. En gros, pour finir à cet aspect que Jésus a annoncé 2000 ans avant, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je trouve ça fabuleux. Et en même temps, dommage, parce que c'est écrit dans la parole. Mais c'est combien c'est vrai. Le fait de donner, le fait de laisser la grâce de Dieu nous amener dans cette dimension que je veux offrir quelque chose, ce n'est pas forcément financier, mais offrir de ma personne, offrir de appeler une personne, appeler une mamie, aller visiter quelqu'un qui est dans l'accablement, la difficulté, etc. Le fait de d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant, il y a une joie que le monde ne peut pas comprendre. Il y a une joie que seuls les enfants de Dieu, seuls ceux qui reçoivent la grâce de Dieu et qui la font travailler connaissent. Ce soir, nous avons le choix de recevoir la grâce de Dieu, l'abondance de la grâce de Dieu, et le choix aussi de nous mettre à l'œuvre au travers de cette grâce. Maintenant, il est question de l'amour de Dieu. Comment considérons-nous l'amour de Dieu? Regardez le psaume 63, psaume de David dans le désert. On le connaît bien ce psaume, surtout le début. David exprime ce qu'il a dans le cœur alors qu'il est dans le désert de Juda. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, donc « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. » D'autres versions disent « car ton amour vaut mieux que la vie ». Est-ce que nous pouvons dire ce soir, en considérant l'amour de Dieu, oui, l'amour de Dieu vaut plus que la vie. L'amour de Dieu vaut plus que ma propre vie. David, je le disais, il était dans le désert, mais au lieu de se plaindre de son épreuve, au lieu de dire « ah, mais je suis dans le désert et j'ai soif et je ne trouve pas d'eau », il a commencé à prendre la situation et à essayer de trouver un aspect de la personnalité de Dieu et de se dire « mais c'est le même sentiment que j'ai par rapport au désir d'avoir le désir de l'eau, je veux avoir ce sentiment qui soit transposé de manière spirituelle pour mon Dieu. » Est-ce que nous avons soif de Dieu? Est-ce que nous avons soif que le Seigneur puisse nous faire grandir? Est-ce que nous avons soif que même dans nos épreuves, nous puissions découvrir quelque chose de plus de la part de Dieu? Matthieu chapitre 6 nous dit, ce verset qu'on connaît bien, Jésus qui parle, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps n'est-il pas plus que le vêtement ?» Vous connaissez ce passage? Il est dit littéralement, alors excusez-moi, j'ai l'esprit un peu mathématicien dans l'âme, hein, mais il est dit, la vie vaut plus que la nourriture. Et juste avant, on a lu que l'amour de Dieu vaut plus que la vie. Donc vous voyez où c'est que je veux arriver. L'amour de Dieu vaut plus que la nourriture. Vous allez me dire, mais c'est évident, allons. À quoi ça sert de soulever cette phrase? L'amour de Dieu vaut plus que la nourriture. Mais arrêtons-nous un instant. Parce qu'on a vite fait de dire qu'on est d'accord, mais réfléchissons-le de manière pratique. Est-ce que j'ai autant de plaisir à manger la nourriture, surtout avec les fêtes, on mange des bonnes choses, qu'à me nourrir de la parole de Dieu? Est-ce que je ne peux pas me permettre de louper un repas surtout, mais par contre je peux facilement me permettre de louper mon culte personnel? Vous voyez, on a vite fait de dire l'amour de Dieu vaut plus que la nourriture, finalement. Quand on y réfléchit, on se dit, mais vous savez, la parole, il est question de personnes qui avaient pour Dieu leur ventre. C'est-à-dire que c'est un problème qui a existé déjà du temps de l'apôtre Paul et qui existe encore aujourd'hui, je pense. Et nous avons besoin de réfléchir avec sérieux à ces choses. Est-ce que je suis capable de préparer un plat? J'aime bien cuisiner les plats en sauce. Et quand on fait ça, il faut faire mijoter la viande. Des jours avant, on a un morceau d'agneau qui est en train de mijoter justement à la maison. Et on fait ça le jour avant, il faut un ou deux jours avant. On est capable de cuisiner toutes sortes de plats, de couper les légumes, de faire mijoter cela pendant des heures. Et puis, quand il s'agit de prendre du temps devant Dieu, ben, on a vite fait de le faire. Quelques minutes suffisent. Et après, on dit, oui, l'amour de Dieu vaut plus que la nourriture. Je crois qu'on a besoin de se remettre en question. Pas besoin d'attendre un choc particulier pour dire, oui, Seigneur, ton amour vaut plus que la vie. Ton amour est ce que j'ai besoin. Et nous avons besoin d'être affamés du Seigneur, assoiffés de Dieu, comme David a pu l'être, car ta bonté, ton amour vaut mieux que la vie. Quand je viens dans ton sanctuaire, c'est pour voir ta puissance et pour voir ta gloire. Est-ce que ce soir, vous êtes venu dans ce lieu avec ce désir dans le cœur? Si c'est le cas, ben vous allez être exaucé parce que le Seigneur, il est fidèle, il répond à la prière de ses enfants. Et quand on vient dans la maison de Dieu avec le désir de contempler la gloire du Seigneur, de voir sa puissance se manifester dans notre vie, d'entendre une parole de Dieu qui va nous toucher, le Seigneur le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Et quelle grâce nous avons. À qui le Seigneur a-t-il permis que Paul puisse écrire ces choses? L'amour ne périra jamais. Toute une lettre qui a été écrite par rapport à l'amour, c'était adressée à qui? Aux Corinthiens, encore une fois. Et alors que Paul leur dit, l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu soit avec vous, les Corinthiens, quand ils lisaient ça, ils repensaient à tout ce que Paul avait pu dire. 1 Corinthiens chapitre 13, vous connaissez ce qu'il est dit, mais on va lire juste le premier verset, les premiers versets. Je vous invite à lire tout le chapitre en entier pour voir ce dont il est question, pour vous remémorer ces choses. Quand on lit du verset 4 au verset 8, on est défié dans notre âme, on est défié dans notre cœur, parce qu'on se dit, il y a encore beaucoup de travail à faire. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, etc., etc. Mais on va lire le verset premier. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce qu'il a marqué? Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Oui, l'amour vaut mieux que la vie. L'amour, là, il est même dit de manière presque évidente, l'amour vaut mieux que tout. Tout ce que je peux faire, tous les sacrifices que je peux faire, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert strictement à rien. Et malheureusement, des hommes passent peut-être des heures et des heures à prier Dieu, mais qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils le font pour mériter quelque chose. Et ça ne sert à rien. C'est ce qu'il est dit là. Et peut-être des fois, nous-mêmes, nous faisons certaines choses pour Dieu. Mais nous le faisons sans amour, sans passion, sans ce cœur véritable pour le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne sert à rien. Et nous avons besoin de dire, oui Seigneur, je veux reconsidérer. Quand je connais ce passage, car ta bonté, vaut mieux que la vie, on le chante avec cœur, mais je veux l'expérimenter. Je veux expérimenter que ton amour est plus que ce dont j'ai besoin. Aimer Dieu vaut mieux que faire des choses pour Dieu sans l'aimer. Quand un docteur de la loi est venu voir Jésus, il lui a dit, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Quel est le plus grand commandement? Ça, c'était une autre histoire. Quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui dit, il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et l'homme a été interpellé par ce passage, de la loi de Moïse qui était récitée par Jésus, et il dit, mais oui, c'est vrai que aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices, qui représentaient à l'époque l'obéissance à la loi. Mais ça pouvait être seulement que l'obéissance extérieur à la loi, et que ce que Dieu recherche, c'est un cœur qu'il aime, c'est-à-dire pas quelqu'un qui vient à l'église, mais quelqu'un qui aime Dieu toujours, 100% du temps, et pas 18 heures par jour comme la dame de tout à l'heure, mais 24 heures par jour, et 7 jours sur 7 aussi, aimer Dieu. L'amour vaut mieux que la vie, vaut mieux que la nourriture, vaut mieux que les sacrifices. Rien ne peut le remplacer. Alors, recherchons l'amour. Justement, dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est dit, recherchez l'amour. Recherchez l'amour. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus, même si c'est Dieu qui est venu nous chercher un jour. Mais nous avons, nous, qui connaissons déjà le Seigneur, ce commandement de rechercher l'amour. Et juste après, rechercher, aspirer aussi aux dons spirituels, aux manifestations spirituelles. Et c'est justement ce dont il est question dans la communion du Saint-Esprit. Je prie que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Maintenant que j'ai la grâce de Dieu, la grâce de Jésus, l'amour de Dieu, l'étape suivante, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça a comme valeur, cette communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que nous aimons, est-ce que nous chérissons le fait que le Saint-Esprit soit venu habiter en nous? 1 Corinthiens chapitre 6, encore une fois, ce qui est dit aux Corinthiens. Verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et laissez-moi vous dire que si nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que nous devons marcher dans la sainteté. Sinon, ça serait dans notre esprit qu'il faudrait être rempli. Si c'est le Saint-Esprit qui est en nous, alors nous devons marcher dans la sainteté. Marcher dans la communion avec Dieu pour être gardés dans la sainteté. Par la grâce de Jésus, par l'amour de Dieu, nous pouvons rester dans cette communion. Je pense à ce psaume de David, où il a dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs ». Vous connaissez ce psaume? Est-ce que vous réalisez ce soir encore que nous pouvons vivre ces instants dans la présence de Dieu? Parce que Jésus s'est offert, la grâce de Jésus, parce que Dieu nous a aimés, parce que par la communion avec le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec le Seigneur ce soir. Dieu est présent par son esprit. Et nous pouvons entrer dans sa présence. Nous pouvons avoir cette communion. Et quand on voit tout ce que le Saint-Esprit fait, ça serait l'objet même de plusieurs messages, si on pouvait s'arrêter sur chacun des aspects. Mais on voit que le Saint-Esprit il donne des directives. Il nous permet de discerner la volonté de Dieu. Il nous permet d'être enseigné. Il nous permet d'être consolé. Il nous permet de faire toutes ces choses pour qu'on puisse grandir et marcher dans la sanctification. À quoi servirait un corps humain sans sang? À rien. Quelqu'un qui est vidé de son sang, il est mort. Il va mourir rapidement parce que le sang est vital. Et le Saint-Esprit, c'est cette force, cette puissance, cette personne, celui qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour marcher dans la vie. D'ailleurs, il est dit encore dans les Corinthiens, la lettre tue, la parole, si on la prend toute seule, avec notre sagesse, elle peut tuer. Mais l'Esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait l'Esprit? il vivifie. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi de la mort et du péché. La loi de l'esprit de vie en Jésus. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là pour nous apporter, nous communiquer la vie de Dieu. Et combien je trouve dommage de rencontrer des fois des personnes qui ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit, mais qui ne manifestent aucun désir. Malgré le fait de lire la parole et de voir qu'il y avait toutes sortes de choses qui se prenaient place, malgré le fait de voir peut-être des frères et des sœurs qui sont baptisés dans le Saint-Esprit et qui ont une vie qui honore le Seigneur, ils n'ont aucun désir d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Combien je trouve cela dommage. Je vois un exemple de personne dans la parole qui n'était pas baptisée dans le Saint-Esprit et qui ne le recherchait pas, mais c'est simplement parce qu'ils n'étaient pas au courant. C'était les disciples d'Éphèse dans Acte 19. Paul est venu les voir et il dit « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils disent « Mais non, on ne savait même pas que ça existait. » Et des fois, il y a des gens que c'est par ignorance qu'ils ne le recherchent pas. Et des fois, c'est des gens qui, je ne sais pas pourquoi, parce que sûrement l'ennemi voudrait les aveugler pour pas qu'ils puissent franchir des étapes dans leur vie chrétienne. Combien c'est merveilleux d'être rempli du Saint-Esprit, de connaître ce baptême dans le Saint-Esprit tous les jours de notre vie, parce qu'il ne s'agit pas d'une histoire d'une fois dans le temps, mais c'est tous les jours de notre vie où on est revêtu de la puissance d'en haut, et le Seigneur nous permet d'avoir de l'assurance, le Seigneur nous permet d'avoir d'être les témoins partout où nous allons, quel que soit ce que nous pouvons dire, sans qu'on le fasse exprès même des fois. Le Seigneur se sert de nous pour toucher les gens. Ça vous est jamais arrivé ? De dire quelque chose et vous ne saviez même pas que c'était une parole toute simple, mais la personne, c'est exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Qui c'est qui l'a fait ? C'est vous ou c'est le Saint-Esprit ? Il y a les deux. Mais c'est le Saint-Esprit qui savait. Et on a besoin d'être rempli de ce Saint-Esprit, cette communion pour le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est le mieux que la présence de Jésus en personne ? Vous allez me dire, il n'y a rien. Rien ne vaut la présence de Jésus. Vous avez raison. Quelque part. Mais regardez ce qu'il est dit dans Jean chapitre 16, un avant-dernier verset, Jean chapitre 16, ce que Jésus va dire lui-même. Voilà pourquoi je peux le présenter comme ça, parce que c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Jean chapitre 16, verset 7, il est dit « Cependant, je vous le dis la vérité ». Donc c'est quand même quelque chose de sérieux quand Jésus dit comme ça. « Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille ». Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc on peut en déduire que ce qui est mieux encore que la présence de Jésus en personne, c'est la communion du Saint-Esprit dans nos vies. Pourquoi ? Parce que Jésus, même s'il était Dieu, il était présent dans un seul lieu. Alors que par le Saint-Esprit, il est présent dans tous les lieux, partout où des hommes et des femmes se réunissent. Même s'il y a une seule personne qui est le temple du Saint-Esprit, le Seigneur est avec lui. Et le Seigneur peut bénir, et le Seigneur peut agir, et le Seigneur peut faire du bien, et le Seigneur peut exaucer une prière, et le Seigneur peut guérir quelqu'un. Parce que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que c'est avantageux, la communion avec le Saint-Esprit ? Je crois que oui. Ce soir, nous avons besoin de la communion avec le Saint-Esprit, oui, pour être gardé dans la sainteté, pour être plus efficace dans notre témoignage. Vous serez mes témoins une fois que vous serez remplis du Saint-Esprit. Mais aussi pour édifier l'Église. On l'a lu tout à l'heure, mais je ne voudrais pas insister dessus, juste vous donner cette pensée que la communion avec le Saint-Esprit, c'est aussi pour édifier l'Église. Qu'est-ce que nous faisons ? Le dernier verset que je voulais lire avec vous, c'était 1 Corinthiens chapitre 12, et le verset 7. Tout ce que l'Esprit peut faire au travers de nous, tout ce à quoi nous devons aspirer, nous devons rechercher l'amour d'un côté, mais nous devons en plus, une fois que nous avons l'amour et la grâce de Dieu qui agit dans notre vie, nous devons être rechercher à être utile dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. La communion avec le Saint-Esprit, quand elle est avec nous, c'est pour l'utilité commune. C'est pour que nous puissions, nous, chacun pour notre part, pas que les pasteurs, pas que les anciens, mais tous, édifier l'Église. Être une pierre vivante qui va être utile dans l'Église. Alors ce soir, simplement faisant cette prière, oui Seigneur, que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, qu'elle soit avec moi aussi. Vous êtes d'accord qu'on fasse cette prière ensemble? Alors faisons-la, fermons les yeux, inclinons nos têtes et disons au Seigneur que nous ne voulons pas seulement avoir une théorie comme quoi l'amour vaut mieux que la vie, l'amour de Dieu vaut mieux que la vie, mais que ce soir, nous avons soif de lui, nous avons cette faim de lui véritable. Oui, Éternel, c'est ce que nous désirons. Ton amour vaut mieux que la vie, ton amour vaut mieux que la nourriture, ton amour vaut mieux que tout, Seigneur. Tout ce que nous pouvons faire dans ce monde n'est rien si nous n'avons pas ton amour. Nous pouvons parler, faire toutes sortes de choses, mais ça ne servira à rien. Si nous ne recevons pas ta grâce, si nous ne laissons pas ta grâce travailler en nous, Seigneur, ça ne sert à rien. Si nous n'avons pas cette communion avec ton esprit, alors tout ce que nous pouvons faire ne sert à rien. Seigneur, les mêmes paroles que nous pourrons dire sans ton esprit n'amèneront pas la bénédiction. Mais avec ton esprit, Seigneur, avec la communion de ton esprit, avec l'accès à ta présence, Seigneur, avec tous ces trésors, cette richesse de ton héritage que tu donnes à tous les saints. Oh Seigneur, combien nous sommes bénis. Et dans ces instants, oui, nous te demandons simplement de nous permettre que nous puissions réévaluer, Seigneur, la grâce, l'amour et la communion avec le Saint-Esprit, réévaluer, les remettre à leur juste valeur, revenir à l'essentiel, Seigneur, dans notre vie spirituelle. Oui, Seigneur, tu vois peut-être les choses qui se sont passées en 2014 qui ont fait que Seigneur, on a négligé certaines choses, on a négligé la communion, on a négligé la lecture de la parole. Seigneur, ce soir, je crois que tu es puissant, Seigneur, pour nous indiquer encore quelque chose qui va nous permettre de grandir, qui va nous permettre, Seigneur, que notre vie chrétienne soit dans la réussite, Seigneur, de manière spirituelle. Oui, nous croyons que ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas les richesses de ce monde qui sont importantes. Ce qui vaut mieux avoir ici-bas, c'est ce que nous avons partagé. Alors, Seigneur, ce soir, donne-nous de marcher, Seigneur, dans ta direction, dans ton sentier, et de faire des progrès jour après jour dans ta grâce éternelle. Amen.